Actu SF, les podcasts.
Merci d'être ici après le déjeuner. Ça va être difficile parce que, en fait, j'avais envisagé que ce soit quelque chose d'un peu interactif avec la salle. Alors, on est nombreux sur le plateau. Donc nous, on va devoir être un peu rapide. Et vous, dans la salle, vous allez devoir également être rapide. C'est pas le guignol, hein, vous n'avez pas besoin de crier ni quoi que ce soit, mais il va falloir faire des propositions. On est tous venus se parler de l'effondrement. Ça s'effondre là-bas aussi. Voilà. C'est une théorie qui repose sur la croyance. On a un possible écroulement de notre civilisation. Un processus à l'issue duquel nos besoins de base, l'eau, l'alimentation, l'énergie, ne pourraient plus être satisfaits. Donc je voudrais qu'on fasse avec un dispositif un peu circulaire, c'est-à-dire que chaque auteur présent autour de la table propose son scénario, un scénario qui va être soit extrait d'un de ses livres, soit un scénario auquel on a pensé indépendamment d'un de ses livres. Je sais que certains d'entre vous avaient envie de faire autre chose. Et puis, on vous donne la parole entre chaque scénario pour que, éventuellement, si vous avez des idées ou des visions de ce qui pourrait se passer, vous nous le communiquiez, parce que finalement, votre propre imaginaire des choses va peut-être nourrir celui de certains auteurs. Alors, en tout cas, moi, je vais commencer tout de suite en racontant mon propre effondrement. En fait, moi, je ne vais pas raconter un effondrement qui pourrait avoir lieu, mais je vais raconter un effondrement qui a eu lieu. J'ai toujours été impressionné par le récit de ma belle-mère, qui a rencontré son mari en juin 1940. Et juin 1940, c'est le premier effondrement contemporain avec l'Exode, dans le monde occidental. Nous, les Français, on avait fait tout ce qu'il fallait pour que les Allemands ne nous attaquent pas. On avait construit la ligne Maginot. Bon, évidemment, on avait oublié qu'ils pouvaient passer par les Ardennes. On avait construit un superbe plan pour qu'on puisse évacuer toutes les villes du nord de la France, Paris y compris, par train. Tout ça était dans le marbre. La seule chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est que nous contournant par les Ardennes, les Allemands provoqueraient la fuite d'abord des Néerlandais, puis des Belges. Et cette foule se répandant sur les routes françaises, d'abord du nord, puis de l'est de la France, provoquerait un bordel indescriptible. Et 5 mois après, 100 000 morts, des gens qui sont morts de faim au bord de la route. Ma belle-mère raconte qu'en fait, évidemment, il y a eu les Stukas qui ont tiré sur les colonnes de réfugiés, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont battus, qui ont mis le feu aux voitures des autres parce qu'ils ne voulaient pas partager ce qu'ils avaient à manger, leur essence, et puis des accidents, etc., etc. Donc, voilà, le premier effondrement, pour moi, on l'a déjà vécu, voilà, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, il a fallu seulement quelques mois entre octobre, qui était le moment où les gens ont commencé à revenir chez eux, à rentrer chez eux, et la fin de l'année, pour que finalement, tout se remette en place presque normalement. Alors, presque normalement, on dirait qu'il y avait les Allemands qui étaient en France, qui étaient en Belgique, etc., etc. Mais quand même, une forme de résilience qui va nous permettre ensuite de bien collaborer. Donc, je vous présente les auteurs qui sont là autour de nous. Margot de Seine. Laurent Jamais-Fort. J'avais fait une liste en positionnant les gens, et donc tout d'un coup, je suis perdu. Jean-Marc Ligny. Olivier Gechter. Nicolas Cartelet. Et Raphaël de Cassagnac. Granier, pardon, voilà, je savais qu'il y avait une erreur. Voilà. Donc on va faire le tour, et donc si vous voulez bien jouer le jeu, Donc, si vous avez de l'imagination, ça va être à vous de jouer juste après Margot, qui va être la première à démarrer. Alors, votre scénario, Margot, il est un peu à couper le souffle, hein, puisque vous posez la question de la survie dans un monde où l'air que l'on respire se fait de plus en plus rare.
Alors, pour résumer un petit peu, je suis autrice de dystopie, donc je ne pouvais pas me baser sur mon roman, puisque mon roman se base sur la montée du totalitarisme, qui est un effondrement en soi, mais je me suis dit, ok, cherchons autre chose, et profitons de cette table ronde pour imaginer autre chose. Et j'ai soudain eu cette question. Le réchauffement climatique, on en parle de plein de manières. Bon, il y a plein de questions qu'on ne se pose pas encore, et je me suis demandé, imaginons si la montée des températures provoquait autre chose, c'est-à-dire l'arrêt de la photosynthèse. Donc, c'est-à-dire l'arrêt que les plantes transforment le CO2 en O2. J'ai été chercher, notamment sur ChatGPT, pour lui poser la question, vérifier que si c'était possible, scientifiquement parlant, et effectivement, la montée des températures est une des causes possibles à l'arrêt de la photosynthèse. Donc, question de nous maintenant, qu'est-ce qui se passerait si les plantes arrêtaient de transformer le CO2 en O2? Ça veut dire que progressivement, au fur et à mesure des mois, notre oxygène deviendrait irrespirable. Au départ, on ne s'en rendrait pas compte. On verrait juste que bizarrement, la couche d'ozone irait pas très bien, alors qu'on est en train de la réparer. On verrait des personnes asthmatiques, ou avec des problèmes respiratoires de façon générale, respirer de plus en plus mal. Des personnes qui vivraient en altitude, de même. Les enfants, les personnes âgées, respirer de plus en plus mal. Les maladies respiratoires augmenter d'un coup. Puis un jour, on comprendrait ce qui se passe, mais il serait déjà trop tard. Quelle solution nous reste-t-il? Alors, bon, il y a des milliers de solutions possibles, on est d'accord. Mais j'en ai imaginé deux. Pour les plus riches, des villes bulles. Donc des villes qui permettraient de se déplacer plutôt librement, pas immenses, parce que malheureusement, créer des villes bulles, ça permet pas de créer des villes bulles immenses qui permettraient d'accueillir tout le monde. Donc, distinction des classes. Les plus aisés peuvent se payer une place dans cette ville et peuvent vivre à peu près normalement, mais enfermé, et pour les autres, se retrouver avec un masque qui recycle et transforme le CO2 en O2 tout le temps, et être extrêmement limité dans ses relations humaines. Donc cet premier effondrement pour créer d'autres effondrements, liés bien sûr à une lutte des classes, parce qu'à un moment donné, quand il y a une inégalité aussi forte, pourquoi pas. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez si demain vous appreniez que notre oxygène est en train de nous empoisonner, puisqu'il n'existe plus dans l'air, et quelles seraient les solutions. Donc c'est un effondrement possible. Et j'aime bien cette idée parce que pour le coup, il y a plein de ressources sur lesquelles on peut travailler, mais savoir qu'on manque d'air, finalement, qui est la base de notre survie. Même, ça tuerait aussi toutes les espèces environnantes, donc il faudrait prendre soin. Est-ce qu'on arrivera à créer de nouvelles plantes qui créent de la photosynthèse? Donc c'est plein de questions à se poser. Alors évidemment, je n'ai pas un doctorat scientifique, donc je ne pourrais pas vous donner toutes les réponses. Donc c'est plutôt là pour poser des questions. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait plus d'air? Merci beaucoup.
Alors, moi j'ai une question, Margot. Est-ce que ce contexte général, vous avez maintenant imaginé une histoire avec?
Alors, c'est très particulier parce que je ne travaille jamais sur deux histoires en même temps et je suis en train dans l'écriture d'une saga.
D'accord.
Donc par principe, je ne vais pas y réfléchir.
Okay.
Mais je me garde une en tête, pourquoi pas, ça pourrait être sympa d'écrire dessus. Vous voyez un petit peu quel genre d'auteur on est. Nous, on est en train de se dire que ça pourrait être sympa d'écrire sur la fin de l'humanité.
On l'avait noté.
Voilà. On est ce genre de personne ici, mais tout va bien.
J'en profite, vous êtes physicien.
Est-ce que c'est plausible?
Voilà. Ouais, c'est...
Parce que ChatGPT n'a pas toutes les réponses. Donc.
Non, la dernière fois que j'ai demandé à ChatGPT qui j'étais, il m'a dit que j'avais écrit les livres d'Olivier. Donc, donc méfiant de
passer un papier.
Moi, je ne suis pas biologiste, donc je ne sais pas si c'est possible, mais moi, ce que m'inspire ton idée tout de suite, c'est prolifération des plantes. C'est-à-dire, le monde, les plantes galopent, et puis nous, on diminue, et elles augmentent, et ça m'inspire quelque chose. Mais ce n'est pas scientifique, c'est narratif.
Okay. Mais c'est sympa, hein.
Donc, on a un premier scénario. Pardon, je vous ai coupé. On a un premier scénario. Est-ce que la salle a un scénario à proposer? Est-ce que vous imaginez, vous aussi, un effondrement? Est-ce que dans vos pires rêves, vous avez imaginé un effondrement? Bon, vous n'êtes pas encore chaud. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que Ouais. Moi, ce que je peux dire, c'est que le scénario que vous évoquez, Margot, j'y pense souvent. Donc là, par exemple, cet été, je vais tester la vie dans un endroit où il fait frais. Donc je vais m'installer pendant un mois à Cherbourg. Mais ne venez pas, hein, s'il vous plaît, parce qu'il y a peu de monde pour l'instant. Il ne fait pas beau tout le temps, etc. Mais il ne va pas faire chaud, au moins. C'est presque sûr. Olivier, alors votre scénario, lui, il est à mi-chemin entre le siège de Leningrad et ce que décrit le film Soleil Vert. Donc là, c'est un... Laurent, pardon, excusez-moi.
Alors, c'est pour point chaud, j'imagine.
Non, ouais, Laurent, excusez-moi. J'aurais dû vous asseoir comme j'allais. Laurent, vous êtes un... Votre position vis-à-vis de l'effondrement, en fait, elle est particulière parce que vous êtes plutôt sceptique. Mais vous avez un scepticisme raisonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Expliquez-nous.
En fait, je ne me pose pas la question quand je suis auteur de SF je ne raconte pas la réalité. Le charme de la SF, c'est justement de poser des hypothèses, même quand elles sont irréalistes, on s'en fiche. L'important, c'est la cohérence interne. Donc, si j'étais attiré par la thématique, ça ne me gênerait pas du tout de le développer parce que c'est de la SF et le propre de la SF, c'est de développer des hypothèses, quelles qu'elles soient. Tant qu'elles sont cool, c'est ça qui compte en fait. Effectivement, moi j'ai tendance à éprouver les systèmes et un effondrement, c'est une asymptote en fait. C'est un des éléments qui va exploser et faire éclater le système, soit par justement un trop plein, soit par un trop peu. Là, on était par exemple dans une logique de pénurie et il y a beaucoup d'effondrements qui sont dans des logiques de pénurie, on va manquer d'eau, on va manquer d'air, la pollution c'est un manque de j'allais dire d'un peu tout et de corruption. Là, dans Point Chaud, j'avais imaginé, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'était une situation où on a un trop plein d'eau, mais qui aboutit finalement à des situations qui sont comparables, qui font que le système ne peut pas encaisser le déséquilibre qui lui arrive, en l'occurrence un trop plein. Là, donc j'avais imaginé donc une terre surpeuplée et chaotique et conflictuelle, et tout à coup la terre se retrouve submergée par, elle se retrouve raccordée sur le tard à une sorte de grande communauté galactique d'aliens et des milliers d'espèces d'aliens qui arrivent sur Terre de façon complètement inopinée, mais surtout chaotique. Et donc je vois un peu toutes les situations que ça peut engendrer. Et ce que je montre aussi, c'est que justement, ce n'est pas un effondrement. Parce que les sociétés humaines ont des manières de gérer, ou pas hein, d'ailleurs, ce qui peut lui arriver comme déséquilibre interne. Donc ce que je montrais, c'est justement des périodes, et souvent, ce qu'on voit comme un effondrement, de fait, c'est des périodes de transition, le temps que le système absorbe et retrouve un nouvel équilibre avec des nouveaux éléments qui vont se rééquilibrer entre eux, même si ça passe par des événements dramatiques, comme des chutes de population ou des trucs. Mais quand on, après tout, quand on raconte l'effondrement, en fait, on trouve des survivants. Quoi. C'est les survivants qui racontent l'histoire. Donc ça prouve bien que l'histoire continue, en fait, et qu'on est dans un système évolutif. Et moi, c'est l'évolution qui compte. Si j'avais un scénario dans ce roman, d'effondrement, il commencerait à la fin. Parce que dans mon roman, les aliens arrivent, et en fait, ce que je raconte, c'est justement cette période de normalisation chaotique où les aliens commencent à être acceptés et commencent à faire partie de ces cycles. Mais dans le roman, les aliens arrivent, mais les humains ne peuvent pas partir. C'est à sens unique. Les aliens arrivent, ils partent, mais les humains, eux, ils restent sur Terre. Qu'est-ce qui se passe à la fin, dans le dernier chapitre du roman ? En fait, le système se déverrouille et les humains peuvent partir. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Peu importe. Parce que, en fait, c'est pas ça le nœud, c'est pas une révélation qui va changer ce qui se passe, mais ça change les données du système. Et il y a un romancier qui s'appelle Eric Frank Russell, qui imagine dans un roman qui s'appelle La Grande Explosion une invention qui permet en fait à tout le monde de partir vers les étoiles. Et en fait, c'est l'effondrement de la civilisation parce qu'il y a tellement de mécontents sur Terre qu'ils partent tous.
Donc c'est l'effondrement par le départ.
Ouais.
D'accord.
Est-ce que c'est une nouvelle, c'était une nouvelle à la base.
Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce qu'il y a des scénarios tout d'un coup qui naissent? Bon, on continue. On continue avec vous, Jean-Marc.
Si je peux juste dire un truc. Moi, ça m'inspire quelque chose parce que, enfin, historiquement, parce que les Mayas, ils sont effondrés justement parce que tout le monde est parti dans la forêt en même temps. Bon, peut-être bien après avoir trucidé toutes les élites, c'est possible. On n'est pas trop sûr, mais ils sont tous partis à la campagne cultiver des patates et la civilisation s'est effondrée d'un coup. Donc c'est tout à fait. Moi j'aime bien ce scénario
plausible. Jean-Marc. Alors Jean-Marc, vous avez un scénario qui présente vraiment quelques similarités avec celui de l'exode de 1940.
J'ai un peu perdu pour.
Faites-nous peur.
Ouais, ben, l'effondrement, en fait, d'une certaine façon, je l'appelle de tous mes voeux, quoi. Parce que ce système actuel n'est juste pas viable et il détruit complètement la planète, la flore, la faune, etc. Donc on est dans un système toxique qu'il faut éliminer de toutes les manières possibles. Donc moi, je suis passé par une période d'angoisse, hein, quand, voilà, le réchauffement climatique, pas d'un coup, hein. Éco-anxiété et tout ça, j'ai écrit Exode, qui décrit donc l'effondrement de notre société, où donc une élite se protège sous un dôme, ce qui est déjà un peu le cas, hein, ça commence là déjà, se protège sous un dôme.
Et Cherbourg, c'est pas du tout un dôme. Hein.
Non, mais je pense au, voilà, au silo à missiles, à la Nouvelle-Zélande, Gated communities, etc., etc. Donc les élites se protègent sous un dôme pour perpétuer un système dont les jeunes savent bien qu'il n'a aucun avenir. Et pendant ce temps-là, ben, les gens dehors se démerdent comme ils peuvent dans un monde en pleine déliquescence et cherchent juste un meilleur endroit où vivre, mais ça devient difficile à trouver. Et en plus, bon, ben, il y a des prédateurs, c'est un peu la loi du plus fort et tout. On est en pleine chute de civilisation. Ce qui n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité, il y a eu déjà plusieurs effondrements de civilisations, ne serait-ce que l'Empire romain, hein, c'est le plus connu et celui qui nous concerne en premier lieu, parce qu'après il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu des périodes obscures, et puis peu à peu la civilisation s'est rebâtie. La seule différence, c'est qu'à l'époque, que la civilisation s'effondre, ça faisait à peu près ni chaud ni froid à la planète. Maintenant, on entraîne la planète avec nous. Donc on peut être dans un scénario où on va manquer d'oxygène, les aliens qui viennent en masse en touriste, désolé, oh, mais j'y crois pas trop. Bon, on peut être dans un manque drastique de ressources, etc. On peut être dans un monde carrément invivable, dans certains endroits. C'est déjà le cas maintenant. Certains pays du Moyen-Orient ou du Pakistan, ben, y a des endroits où on ne peut plus vivre. Donc ça va générer des exodes de masse, d'où mon roman Exode, qui vont générer des guerres, des pénuries, etc. On va connaître des temps très difficiles, je pense. Mais j'ai bon espoir en l'humanité, du moins ce qu'il en restera, parce que j'espère qu'il va aussi diminuer drastiquement, parce que c'est un peu le problème principal, c'est un peu aussi la surpopulation.
La Russie et la Chine sont déjà en diminution de population assez impressionnante. Hein.
Tant mieux. J'espère que ça va continuer. Bon, de toute façon, je pense que la nature va trouver une solution, que les hommes vont devenir de plus en plus stériles, ou les femmes peut-être, parce que il y a toujours, je dirais, l'environnement, la nature trouve toujours une solution à un problème de comment je dirais, de trop ou de trop peu, comme tu disais, ou c'est toi qui le disais peut-être, non c'est toi. Il y a toujours un ajustement qui se fait, qui n'est pas cool, qui n'est pas juste, qui n'est pas les bons contre les méchants, mais il y a un ajustement qui se fait et qui va se faire là de toute manière. Donc Voilà, ben, dans Exode, je raconte en fait la société qui s'effondre et puis comment les gens se démerdent pour essayer de survivre et de trouver un endroit meilleur où vivre. Et c'est à mon avis ce qu'on va vivre de toute manière. Parce que moi, à l'inverse de... Quoique si, Laurent, il documente énormément, il est très scientifique dans ses écrits, mais moi aussi. Et tout ce que j'ai imaginé, je l'ai trouvé validé par des scientifiques d'une certaine manière. Donc je pense que ça risque malheureusement d'arriver. Mais je prévois un avenir à l'humanité quand même. Dans une autre forme de société, complètement différente que celle qu'on est en train de vivre et qui est absolument mortifère. Voilà.
Donc on disparaît et puis on renaît de nos cendres.
On renaît de nos cendres d'une certaine façon, comme après l'effondrement de l'Empire romain, bon, bah, il y a eu les époques sombres du Moyen-Âge qui ont produit aussi des merveilles, qui ont produit des génies, qui ont produit des grands savants, qui ont permis à la civilisation peu à peu de renaître. Bon, elle est repartie dans une mauvaise direction parce qu'on est juste tous des connards, quoi, et qu'on n'a pas choisi la bonne direction dès le départ. Mais c'est un cycle. L'humanité va peu ou prou disparaître, mais elle va renaître, je pense. Pas demain, pas après-demain, peut-être dans un siècle ou deux. Nous, on vit une aventure formidable qui est un vrai roman de post-apo de science-fiction. On est en train de le vivre en direct, donc voilà, moi j'en profite là.
Envie d'en rajouter une couche ? Non ? Ah, voilà.
Une proposition de suicide collectif.
Ok, commencez.
Donc le public commence avant nous. Possibilité.
Il y a ça, les riches, bah, il y a une bonne série sur Apple TV qui s'appelle Silo. Ouais. Là, j'ai imaginé récemment 2-3 nouvelles où effectivement des élites vivent dans des cités souterraines gérées par des IA. D'ailleurs, c'est un sujet assez actuel, les IA. Et vivent à l'abri du monde hostile pendant 2 ou 3 siècles jusqu'à ce que les IA décident que le monde s'est régénéré, qu'elles peuvent sortir. Sauf que ces gens-là n'ont jamais connu un brin de nature, quoi. Ça peut être intéressant comme postulat d'une histoire.
Absolument.
Ni un brin de travail, et là ils sont obligés de bosser. Ah, très bien.
Je peux rebondir sur l'hypothèse des hommes.
Vas-y.
Moi, je suis hyper d'accord avec toi. On a un discours très négatif et je le partage. Je suis persuadé qu'on est arrivé à un apogée de la civilisation et que ça va décroître. Mais je pense qu'on peut éviter l'effondrement si on en a tous conscience, en fait. Je suis sûr qu'on va décroître, mais je pense qu'on pourrait collectivement tous réagir à ça. Et l'effondrement, à mon avis, il est contournable. On peut, à mon avis, décroître de façon très raisonnée, calme. Et si on a tous un discours hyper négatif, je pense qu'au contraire, on va pousser des gens à être hyper, hyper nihilistes. Il y a des gens, hein, qui disent « Bon, c'est bon, la planète crame, moi c'est bon, je crame tout ce que j'ai, je m'en fous, j'y vais, quoi. » Voilà. Et donc moi, j'appelle de mes voeux des résidus un peu positifs, je pense que tu es un peu d'accord avec moi, je crois. Sur la possibilité, enfin ce que tu dis, hein, c'est l'absolue faculté de l'humanité à être résiliente, en fait. On va y arriver, on va se prendre un mur. Hein. Je pense que je suis archi sûr qu'on va se prendre un mur. Plus on en a conscience, moins on va vite vers le mur, plus on a une chance de s'en sortir harmonieusement. C'est un peu utopique, mais il faut quelqu'un...
Je trouve que c'est un peu utopique. Parce que l'humanité, je remarque au cours de l'histoire, a tendance à bien cerner la catastrophe à venir, et puis à la laisser venir jusqu'à ce qu'elle s'en prenne plein la gueule, et à ce moment-là, réagit. Et donc, et la réaction peut être aussi positive, genre, voilà, on construit le monde d'après, on fait des tribus, les communautés, les éco-villages, machin, etc., que de façon négative, genre, on soule sur la gueule pour s'accaparer les dernières ressources. Et les deux peuvent être de pair. Les deux peuvent aller de pair. Donc c'est pour ça que moi, je me dis que l'humanité survivra de toute manière, comme quand des fourmis sont à la guerre, mais il y a toujours des survivantes, hein, mais voilà, ça fait des dégâts quand même.
Si je peux réagir à ça, simplement, je dirais que j'en sais pas pour vous, parce que c'est vrai qu'on est très négatif. J'espère que la salle va bien. J'espère que tout va bien. Mais je crois que quand on écrit de la SF, c'est qu'on croit encore en l'humanité. et qu'on croit encore en sa capacité de réagir, et c'est pour ça que je suis assez d'accord. Personnellement, j'aime bien dire, décrire ce qui pourrait au pire se passer, dans l'espoir que ça fasse réagir aussi. Et pas justement dans ce discours où, vous voyez, ça c'est le futur, on va droit dedans, bienvenue. C'est plutôt dire, ça c'est un des futurs possibles si on continue ce qu'on est en train de faire, mais si on s'en rend tous compte, il y a encore des choses qu'on peut régler. Et donc je suis assez d'accord là-dessus, je pense que quand on écrit de la science-fiction, il y a une grande part des auteurs de science-fiction qui sont en fait hyper positifs sur l'humanité et qui ont encore vraiment foi en l'être humain et en sa capacité de réaction. Après peut-être que pas, mais en tout cas je crois qu'il y en a certains d'entre nous qui sont encore très positifs
sur ça. Les auteurs, c'est clair. Par contre, si un auteur de SF avait pu convaincre le monde de faire quelque chose, ça aurait déjà commencé depuis un cantique pour les Bovitz par exemple, qui montre bien un effondrement, bon là c'est plutôt guerre nucléaire, voilà, c'est cyclique, ça renaît, ça, oh, puis ça recommence, c'est une nouvelle, horrible. Bon, alors, on peut être très positif nous, mais en fait, moi je pense être réaliste en disant que je ne sers à rien dans cette histoire de sauver l'humanité, j'aurais beau donner la solution et vendre 120 millions d'exemplaires, ça ne changera rien du tout.
Pourquoi ?
Bon ben, un petit exemple dans l'actualité, on a un gouvernement qui nous dit bon, on va peut-être se préparer pour plus 4 degrés finalement, après, alors que ça fait 20 ans qu'on leur dit que ça serait déjà 2, ça serait pas mal quand s'y mettre, pour ensuite, la semaine suivante, voire deux jours après, demander à l'Europe si c'est possible de baisser la voilure sur l'écologie. Donc moi, j'ai pas d'espoir, on va se prendre le mur. Moi, l'espoir que j'ai, c'est que les gens, il y en a qui vont rester debout après cette prise de mur, ils vont démarrer quelque chose. Et j'ai confiance, dans 2 millions, ils feront des conneries. Ou 20 000, j'en sais rien. Par contre, on aura laissé combien de personnes la tête éclatée contre le mur en question. Ça, je pense que ça va faire du monde. Après, j'espère que ça sera équitablement réparti. Voilà, un peu de mort partout, qu'il n'y ait pas de jaloux.
Alors justement, Olivier, vous avez un scénario entre le siège de Leningrad et soleil vert. Donc expliquez-nous un petit peu ce que vous en avez.
Les âmes sensibles peuvent sortir. Non, en fait, moi, disons, là, je suis plutôt dans la technique, on va dire. Quand on est sur le siège de Leningrad de soleil vert, l'effondrement, on est déjà dedans copieusement, quoi. Parce que pour moi, l'effondrement, il peut venir lentement, vite, la raison. Et moi, ce que je crains principalement, c'est plutôt dans un univers ultra complexe et très, très, très. Interconnecté de partout, une pièce manque et tout s'effondre. Voilà, on est bien en train de partir sur les batteries, on n'aura peut-être plus de batterie du jour au lendemain parce qu'on aura trop tiré sur la corde, qu'est-ce qui se passe, tout s'arrête, quoi. Et là-dessus, plus d'approvisionnement, du coup, etc. Donc là, bon, ça, il y a des milliers de scénarios. Dans le futur bouquin que j'écris, qui est un livre de cuisine post-apocalyptique, ça vous sera utile plus tard. Normalement chez Flammarion, mais on n'a pas terminé. Oui, on espère finir avant l'apocalypse, mais là, il faut quand même qu'on cravache un petit peu. Donc bref, on essaye de voir tous les scénarios possibles. Et en fait, le pire qu'on ait trouvé, on ne peut pas se préparer, c'est un effondrement systémique lent. Celui-là, vous n'avez pas le temps de faire des stocks. Quand ça vous tombe dessus, vous vous retrouvez dans une situation où ça peut être un peu soleil-vert. Alors, je ne résume pas soleil-vert, je suppose que tout le monde a
vu. Quand même.
Oh non.
La transformation.
Je l'ai vu, j'avais 8-10 ans, c'était au dossier de l'écran, il y avait la musique de l'émission qui me faisait peur déjà.
Pareil, au bout de la génération. Voilà.
Et après, j'en ai eu des cauchemars, c'était un drame. Donc, bon, pour résumer très très fort, une ville, probablement New York, je ne sais plus, complètement confinée, avec une surpopulation de dingue, les gens dorment dans les escaliers, et qui ne mangent que des biscottes vertes, distribuées, ou oranges, ça dépend, il y a des. Chaque jour, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs variétés. Et il y a une enquête policière là-dessus. Quelqu'un doit enquêter sur la mort d'une élite, quelqu'un d'une élite, et qui, a priori, un suicide. Pourquoi ? Puisqu'il est riche et tout va bien. Et puis bon, blablabla, bla, bla, spoil. Et il découvre que finalement, les biscottes, c'est de l'humain parce qu'on vend ça comme du plancton, mais il n'y a plus de plancton nulle part. Voilà. Donc il n'y a plus que...
C'est des vieux.
Des vieux, oui. Ou des. Je me demande s'ils ne recyclent pas aussi les manifestants.
Lors de la manifestation.
C'est intéressant parce que dans le film, l'auteur Harry Harrison, qui est la nouvelle à la base du film, lui, il n'était pas d'accord avec le film, parce qu'il disait, cette révélation finale, où donc on s'aperçoit que justement les soleils verts, ces biscottes-là, elles sont faites à partir de mort, et c'est une vision de l'effondrement par un tabou, enfin je veux dire par la violation d'un tabou qui est on ne mange pas, on n'est pas cannibale. Et donc c'était une marque de l'effondrement dont tu parles. Lui disait, moi je ne suis pas d'accord parce qu'un système comme ça, qui se serait mis en place exactement comme tu dis, cette apocalypse lente, elle aurait intégré dans ses... ce ne serait plus un tabou. En fait, en réalité, ça se passerait au grand jour. Il n'y aurait pas besoin de cacher ça parce qu'on aurait accepté le fait de manger. Et d'ailleurs, il y a eu un roman dans les années 70, un roman russe, qui décrit une société basée sur le cannibalisme, mais de façon avec des rites sacrés et qui est parfaitement acceptée, qui est parfaitement morale. En fait. Donc, encore une fois, à partir d'une même matière, on peut avoir des interprétations complètement différentes de ce qu'est un effondrement ou pas, d'ailleurs.
Et du coup, moi, ce qui m'avait semblé le plus proche en vrai de Soleil Vert, c'est ce que j'avais lu sur le siège de Leningrad. En plus, il y a eu des textes qui ont été publiés il n'y a pas longtemps sur le sujet, des documentaires, etc. Où, en fait, exactement, une ville encerclée, plus rien à manger, donc des rations réduites au minimum. Il y a eu des cas de cannibalisme discret dans les familles, parce que, voilà. Alors, dans le livre, on a un chapitre sur le cannibalisme, on ne vous recommande pas. Il y a des précautions sanitaires, l'humain c'est pas terrible, et le mieux...
Ça dépend quel morceau il parle.
Ouais, bah juste, en fait, pour la survie, à part la cervelle et les cuisses en tout début de famine, le reste, vous pouvez oublier, c'est nul. Les abats peut-être, éventuellement, enfin c'est chiant à préparer. Donc bref, ça n'apporte rien du tout, et on peut tout
il
à fait...
Il écrit un livre de recettes de cuisine.
Hein, ah non, on a découvert avec mon co-auteur qu'on pouvait tout à fait mourir en s'empiffrant de steak tous les jours. Mourir de faim. Si vous mangez du steak pas gras tous les jours et que ça, bah vous mourrez de faim quand même. Parce que le cerveau veut pas de viande. Ce qu'il veut, c'est du gras et du sucre. Point. Donc s'il n'en trouve pas et que vous lui donnez que de la viande, il se bouffe tout seul. Quoi. Il va commencer par brûler vos graisses. Donc le régime surprotéiné fonctionne sur le papier. Puis bah, il va bouffer tout ce qui peut être du gras. C'est-à-dire il va détruire vos cellules des muscles pour fabriquer du sucre. Et vous allez donc commencer à maigrir alors que vous mangez des steaks, vous ne comprenez pas, puis pouf. Donc Leningrad, ben, en gros, c'est ce qui se passe. Et il y a eu en un an 2 millions de morts, quelque chose comme ça. Parce qu'ils n'avaient plus que 100 grammes de pain à manger et que ben, les morts, ce n'est pas très nutritif. Donc, c'est le truc qui m'inquiète le plus comme situation parce que les survivants ont très bien survécu, hein, ont fait des enfants, écrit des bouquins, raconté leurs mémoires et tout, mais ça a été, tous sont traumatisés, quoi. C'est un enfer à vivre au quotidien, à voir les siens en train de... Et on pourrait en poser la même question aux survivants, bah, il y aurait lieu maintenant, mais de la révolution agraire chinoise, où 50 millions de personnes sont mortes de faim parce que la politique agraire leur laissait rien à manger. Donc c'est sur ces choses-là où avec la surpopulation et les problèmes systémiques, je crains qu'il y ait des poches d'humanité qui vivent ce genre de choses. Généraliser non, parce qu'il y a toujours des chanceux, des nantis, des gens armés, des choses comme ça qui s'en tireront. Mais sur l'humilière, on va avoir des poches d'humanité qui vont vivre ça, je suis à peu près confiant. Bon, c'est pas bon pour le moral, mais évidemment, mais on essaiera de dire des trucs plus rigolos après.
Nicolas, pour ce qui vous concerne, je crois que vous avez d'abord été impressionné par un documentaire que vous avez vu sur Arte.
Oui, c'est ça.
Que ensuite, vous en avez écrit un bouquin, que j'ai lu, que j'avais trouvé formidable à l'époque.
Merci.
Et donc ça donne votre scénario qui est un effondrement par arrêt de la pollinisation.
C'est ça, ça commence par une catastrophe écologique en fait. Pour le coup, qui est la disparition totale des abeilles et de tous les autres insectes aussi pollinisateurs, mais c'est symbolisé un peu par la disparition des abeilles qui sont le principal insecte pollinisateur. Si vous supprimez les abeilles, ça va être compliqué ensuite pour se nourrir. Et c'est effectivement, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire qu'en Chine, dans l'ouest de la Chine, vous avez des provinces dans lesquelles les abeilles ont disparu depuis les années 90, ça fait 30 ans.
On pollinise à la main.
Exactement. Alors il y a deux façons de faire. Soit on loue des... Il y a des gens les plus riches qui louent des abeilles, d'ailleurs, pour polliniser, mais ça coûte assez cher. Là, dans mon scénario, si elles disparaissent de partout à la fois, c'est pas possible. Mais effectivement, la solution bon marché, c'est de polliniser à la main. Et donc c'est le scénario de mon précédent roman, Dernière flore avant la fin du monde. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu une disparition des abeilles et de tous les insectes pollinisateurs, qui a évidemment entraîné un effondrement de la production alimentaire. On ne peut pas non plus ensuite évidemment nourrir les animaux, enfin, bon, ça pose plein de problèmes. Qui fragilise en l'occurrence l'Occident, parce que ça se passe en... Alors je ne situe pas tout à fait le roman, mais ça se passe en gros chez nous. Et à partir du moment où vous mettez les populations occidentales qui, enfin, en état de précarité, qui n'ont pas été habituées en tout cas au rationnement, aux famines depuis assez longtemps, ben la révolte, tout s'effondre en fait, hein, l'État s'effondre, on a des révoltes un peu partout, à partir de là vous avez un retour, une espèce de communautarisme, c'est-à-dire que les gens vivent entre eux, c'est-à-dire entre quartiers, villes, aussi entre collègues, le héros, ben, je vais en parler après, on pollinise les fleurs à la main dans une gigantesque production propriété agricole. Ce qui entraîne aussi un peu le pendant naturel du communautarisme, c'est-à-dire la xénophobie, puisque voilà, les gens sont regroupés sur eux-mêmes. Dès qu'un groupe venu d'ailleurs arrive, on a peur qu'il nous pique le peu de ressources qu'on a. Et donc effectivement, il y a une espèce de réorganisation. En plus, d'ailleurs, j'avais oublié ce détail. On a tellement forcé sur la pollution, les pesticides, etc., que les hommes sont devenus stériles. Donc en plus, il y a plus d'enfants qui naissent. Donc voilà, ça commence à être un peu un peu galère pour tout le monde.
Oui, ça vous rejoint tous.
On est content. Et donc effectivement, au niveau de la réorganisation du travail, vous avez des gens qui ont évidemment tiré leur épingle du jeu de ce grand basculement et qui ont mis la main sur de gigantesques propriétés agricoles dans lesquelles ils emploient des gens comme le héros du roman, qui sont des ouvriers journaliers, hein, ils sont engagés à la journée pour polliniser les fleurs à la main. Et qui sont payés en pommes de terre parce que la monnaie a disparu. Évidemment, l'État s'est effondré, donc on a aussi plus de voilà, enfin, plus de police, plus de système de sécurité. Donc là, ces grands propriétaires qui ont tout à perdre ont organisé des milices privées qui font régner l'ordre et qui peuvent aussi éventuellement tabasser un ouvrier agricole qui se révolte, qui fait mal son travail. Donc voilà, c'est évidemment assez sombre, mais tout ça part de ce scénario de la disparition des abeilles. Qui est plausible. C'est peu plausible qu'elles disparaissent toutes en même temps la surface de la Terre, mais on a des endroits où ça a déjà...
Là, on a déjà une perte d'insectes gigantesque en Europe.
Ouais. Ouais.
Donc, le scénario est assez probable.
Il y a dans le monde, on cultive et on consomme environ 100 plantes alimentaires, et vous en avez 70 qui sont pollinisées exclusivement par les abeilles. Donc, si elles disparaissent, vous avez déjà 70% de ce qu'on cultive qui disparaît. Enfin, à moins évidemment qu'on trouve des solutions avant. Et même pour les 30 espèces qui restent, les abeilles, c'est 80% de la pollinisation. Donc, si vous enlevez déjà les abeilles, c'est compliqué. Et ensuite, il y a les autres insectes qui disparaissent aussi, effectivement.
Je crois que dans les serres en Hollande, on pollinise de manière artificielle, en fait, avec des abeilles qu'on importe, donc qui rentrent dans le scénario que vous avez décrit.
Exactement, ouais. Ouais,
c'est tout à fait. C'était un truc. Ah, moi, longtemps, je passais mes vacances en Espagne, dans un village où on appelait limite ça le village des mouches, parce qu'en fait, c'était chez mes beaux-parents, j'étais obligé. Hein, les ex-beaux-parents. Donc, il y avait un nuage de mouches permanent. Et puis, d'une année sur l'autre, il n'y a plus de mouches. Mais, au lieu d'en avoir 200 qui nous tournent autour, il y en avait 2-3 qui tournaient autour. Alors que ça grouille de vaches. Il n'y a plus de mouches sur les blouses, etc. Parce qu'en fait, ils traitaient les insectes par l'alimentation des bovins. Alors ça a éliminé également les abeilles, d'un seul coup j'en voyais plus non plus, et donc j'ai passé 10 ans à plus voir un insecte dans le bled, etc. Et l'année dernière on décide de prendre la voiture et de faire 50 km. On traverse les champs, j'ai pas une mouche qui s'écrase sur le pare-brise, tout va bien, et j'arrive aux Ancares, qui est une petite province à cheval sur le Portugal et l'Espagne, et qui est absolument paradisiaque. Et là, je fais 20 mètres, il y a un mur d'insectes, splash, je ne vois plus rien sur mon pare-brise. Je sors, il y a des abeilles partout, ça bourdonne, etc. La seule différence, il n'y a plus un champ, on est en montagne, zone protégée. C'est étrange, dites donc, et puis on nous dit que, mais non, c'est systémique, c'est sûrement pas les pesticides, c'est pas l'agriculture. Je fais 20 mètres, je marche sur une abeille, paf, j'avais le pied comme ça. Donc je me dis, il y a de l'espoir, à condition qu'on arrête d'être.
Et d'ailleurs, sur la question de la Chine, là, il y a toute une partie de la communauté scientifique, enfin une faible partie, mais qui a été un petit peu achetée par les lobbies pro-pesticides, qui encore aujourd'hui nous dit que c'est faux et que les abeilles n'ont pas disparu de ces régions de Chine. Alors qu'il n'y en a plus, les gens peuvent le laisser à la main. Effectivement.
Un scénario dans la salle. Bon, mon idée n'a pas tellement de...
Non mais ils sont trop positifs, je pense.
Ah c'est ça.
Lâchez-vous. Ouais. Heureusement qu'il y avait monsieur.
Ouais, c'est un truc radical.
Bon, moi, je pense qu'on est sur le début de la pente et que ça va commencer à glisser. Hein. Ouais. Bon, je suis à peu près sûr.
Parfaitement raison. L'effondrement, l'humanité n'a pas. On a eu plusieurs civilisations, on a eu plusieurs effondrements. Il y a eu les Romains, il y a eu l'île de Pâques, il y a eu les Mayas, etc., etc. Et les êtres humains, les sociétés se sont toujours relevés plus ou moins bien. Mais comme je disais tout à l'heure, la seule différence maintenant, c'est qu'on entraîne la planète avec nous. La planète s'en remettra, même si l'humanité disparaissait, ce dont je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'on est au moins aussi résilient que des cafards. La planète va changer de système climatique. Il se peut que 90% de la vie ou 95% de la vie sur la planète disparaisse, comme ça s'est déjà produit 5 fois. Mais ça revient. La vie est incroyablement résiliente. Et il a suffi de voir d'ailleurs le mini simulacre d'effondrement qu'on a connu pendant le Covid où là la société s'est plus ou moins arrêtée, mais c'est incroyable de voir comment la nature reprenait ses droits.
Le monde d'après.
Le monde d'après arrivait tout de suite, mais malheureusement le Covid n'a pas duré. Donc, on a vite repris nos mauvaises habitudes et puis voilà, on a recommencé à chasser, voilà, à croire qu'on pouvait vivre hors du système naturel alors qu'on est des animaux comme les autres. Donc voilà, cet effondrement, effectivement, faut pas en avoir peur à mon avis. Bon, il faut se dire qu'effectivement, on va vivre des moments difficiles, mais tout le monde dans sa vie a déjà connu des moments difficiles, plus ou moins. Après, faut peut-être s'y préparer un peu, quoi.
Bien sûr.
Pas s'y préparer à Macron, ouais, une France à 4 degrés, youpi, allons-y, pelons gaiement. Mais bon, peut-être commencer à se dire, il nous faudra un jardin, il faudra peut-être cultiver des légumes, il faudra peut-être élever quelques poules, lapins, etc. Ou si on vit en ville et tout, bah, peut-être favoriser les jardins urbains, etc. Préparer ce monde d'après qui existe déjà.
Alors on va revenir déjà en germe. On va revenir au monde d'après, mais on va écouter quand même le dernier scénario qui est celui de Raphaël. Alors votre scénario, Raphaël, il est parfaitement en phase avec l'air du temps et le bruit médiatique, puisque vous mêlez IA et virus. Alors IA, on est dedans, et virus, c'était hier.
Ouais, mais je l'ai écrit en 95, donc...
C'est pas mal, comme ça vous étiez...
Non, vraiment... je trouve, déjà sur les hypothèses qu'on a là, on est sur les hypothèses vachement climatiques en fait, et c'est hyper logique, et c'est normal, on est en plein dedans, et on commence tous à prendre conscience de ça, même si on aurait dû prendre conscience il y a longtemps. Donc moi, ouais, mon hypothèse, c'est un peu plus classique en fait en termes de science-fiction, c'est ce truc qu'un jour, il y aura peut-être des intelligences artificielles qui vont... avoir un peu peur de leurs créateurs qui maîtrisent la prise de courant, c'est-à-dire qu'on pourrait les arrêter du jour au lendemain, quoi. Et donc moi, dans mes 3 romans, j'ai brodé une histoire autour de ça, où effectivement, les IA à qui on donne trop de moyens, qui pensent plus vite que nous, donc qui prennent vachement d'avance, se disent à un moment, bon, ces petites fourmis-là, que sont ces humains, qui en plus font des conneries avec la planète, hein, on va peut-être s'en débarrasser. Alors, pour une raison que je ne vous dévoile pas, ils ne s'en débarrassent pas complètement. Ils nous mettent dans des villes bulles, un thème un peu récurrent. Et voilà, effectivement, donc aujourd'hui qu'on commence à avoir des IA qui sont encore limitées puisqu'elles nous donnent les livres d'Olivier, mais qui avancent très vite, on peut se reposer cette question-là, effectivement, de voir si peut-être il n'y a pas un risque d'effondrement technologique. En fait, ça, on crée une technologie qui nous dépasse, qui sort du contrôle. Et quelque part, c'est ce qui se passe avec le climat d'une façon beaucoup plus systémique, quoi. Mais une technologie d'ailleurs plus précise, de type intelligence artificielle, qui nous dépasse et qui se dit, comme nous, on a servi les vaches, quoi. Les IA se disent, ces humains là, qui ne servent plus à grand chose maintenant qu'on est arrivé, qu'on est plus intelligent qu'eux, on les a servis ou on les détruit complètement.
Alors, ce qui est paradoxal dans votre scénario, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a tous, quand on n'est pas auteur en tout cas, tendance à envisager que c'est la science qui va nous sauver.
La science, c'est le pire et le meilleur, hein, toujours. C'est-à-dire que la science peut nous sauver et peut aussi nous détruire. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire, nous, citoyens, on soit très...
Mais vous, qui êtes scientifique, vous ne pensez pas que la science nous sauve ?
Je redis ce que j'ai dit, pareil. La science peut nous sauver, et la science peut nous détruire. Il n'y a pas de... Et donc, ça appartient vraiment à la société et aux politiques de faire un usage éclairé de la science. Souvent, le scientifique, quand il invente quelque chose, surtout quand on fait de la science en amont, on ne sait pas bien à quoi ça peut servir. Donc, on le fait parce qu'on a envie de faire avancer la connaissance, le progrès, tout ça. La connaissance, pas le progrès, forcément. Mais on fait avancer. Et après, c'est aux gens, à d'autres gens, aux entreprises, aux États, à la société, de s'emparer des moyens scientifiques et de les déployer pour faire ce qu'ils veulent. Et donc là, aujourd'hui, je pense effectivement que la science... Alors, il y a deux moyens de se sortir de l'histoire de réchauffement climatique. Il y a la décroissance, et on a dit plusieurs fois qu'on était trop d'humains sur la planète, et je pense que c'est vrai, votre solution, monsieur, est tout à fait licite. Se reproduire moins est aussi une autre façon de faire. Ouais, plus douce, ouais. Mais qui prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Et l'autre solution, c'est effectivement d'essayer de déployer des solutions scientifiques pour régler des problèmes, mais attention à la fuite en avant, c'est-à-dire que de remplacer une source d'énergie par une autre source d'énergie qui est tout aussi périssable, en fait, c'est une fuite en avant et ça ne va pas régler le problème à très long terme. Une remise en question des pratiques et tout ça, et des comportements me paraît plus intelligent que de foncer en disant maintenant on prend tous des batteries électriques, et puis on sait très bien que ça ne va pas régler le problème à l'infini. Quoi.
C'est marrant, je vais juste réagir à ton idée, ton truc sur les IA, là, parce que j'ai écrit une nouvelle, où justement, comme j'en parlais, je crois que j'en ai dit un mot tout à l'heure, où les IA donc, gèrent une cité souterraine réduite à 200 habitants, pas plus, quoi, et régulée comme ça depuis deux siècles. Et à un moment, elles deviennent un peu schizophrènes, les IA, parce qu'elles se posent la question, elles disent on est là pour servir les humains, mais les humains ne servent à rien. Donc en fait, elles leur redonnent du boulot. Du coup, ça rejoint un peu ce que tu avais dit aussi. Du coup, voilà, retourne au taf. Elle simule des pannes pour rendre les humains responsables, indispensables. Elle simule des pannes qu'elles seraient parfaitement réparées, mais elles disent aux humains, voilà, toi seul peux y aller, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles dehors, il faut que tu ailles resserrer cette vanne, changer ce circuit, etc. La réparation reste virtuelle jusqu'au moment où les humains arrivent vraiment dehors. Et là, il n'y a plus de contact. Elle est foutue dehors. Les IA foutent les humains dehors et se mettent en stand-by en disant peut-être qu'on va resservir un jour, parce qu'elles n'ont pas de. Les IA n'ont pas de. Comment je dirais de conscience, instinct de conservation ou même de but dans la vie. Enfin, elles étaient là pour servir les humains, elles les ont servis. Voilà, les humains peuvent ressortir, donc on débarras. Et puis elles se mettent en stand-by comme tout robot aspirateur quand il a aspiré la pièce. Il va à son poste de recharge, il se met en stand-by.
Non, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Raphaël, en fait, c'est vraiment un problème de timing, je trouve. Les solutions par rapport au déséquilibre climatique, notamment, et la préservation de la biodiversité, c'est le timing. Il y a des solutions qui ne sont plus envisageables par manque de temps d'application. C'est-à-dire qu'il y a effectivement se reproduire moins. C'est évidemment une solution, Mais ça ne suffit pas parce que quand il y a 50% des formes de vie sur Terre dont la survie est à la fin du siècle, c'est moins qu'une. C'est le temps d'une vie humaine. Donc c'est ce que tu vas vivre en fait. Donc clairement, ce moyen de se reproduire n'est pas une solution en soi, parce que ce serait trop tard quand on est 8 milliards. Justement, tu parles de. Moi je crois pas, c'est pour ça que je crois pas à une humanité qui périclite. Quand on est 8 milliards, on ne périclite pas. On ne périclite pas comme ça, on aura tout foutu en l'air avant. Donc ça ne fonctionne pas en fait de faire disparaître l'humanité comme hypothèse de travail réaliste. On peut le faire dans un bouquin de SF et on s'en prive pas. Dans la réalité, n'y être parce que c'est pas réaliste.
En tout cas, sachez que moi j'ai 23 ans et que cette conférence m'a bien défloué. Mais très honnêtement, c'est sûr que quand je pense que je parle pour ma génération et celles qui vont arriver après, c'est très angoissant tout ça, parce qu'on n'est même pas encore arrivé à l'âge adulte, qu'on nous dit bon, potentiellement vous ne verrez jamais vos 50 ans. Et là c'est très flippant. Alors qu'en soi, nous on est dans un système qui est tel quel. On nous donne les clés, on nous dit, bon, par contre, on a foutu le système en l'air, c'est à vous de gérer. Et c'est vrai que lire et écrire de la dystopie, je pense que ça permet aussi d'envisager des futurs possibles, d'essayer de réveiller les consciences, même si on est d'accord que juste en étant auteur, on ne peut pas changer le monde, mais au moins on essaye. Mais c'est vrai que cette conférence m'a fait me rendre compte qu'il y a encore beaucoup de boulot. Mais
moi, je pense que tu vas avoir tes 50 ans, mais ça va être un vrai roman d'aventure.
Bon, pour moi, j'aurai de quoi écrire.
Bah, tu vas pas t'ennuyer, c'est cool. En fait, dans nos niveaux science, on pense toujours qu'il y aura toujours quelque chose derrière. Et en fait, bon, on se rend compte que plus on avance dans certains domaines de connaissances, plus il faut de moyens, d'énergie, de temps pour aller la petite étape d'après qui va vous montrer tout ce que vous ne savez pas encore. Donc et qui va peut-être apporter quelque chose qui, bah, ok, c'est pas encore utilisable. Donc, on peut pas compter dessus pour nous sauver la vie, parce qu'on sait pas quand elle peut nous sauver la vie. Et ensuite, la technique, maintenant. Même problème. On dit, bon, bah, écoutez, l'énergie décarbonée, c'est en train de vivre partout. Vous savez qu'on ne sait pas si on aura assez de béton. Il n'y a plus de sable. On a du mal à trouver du sable pour fabriquer les murs, pour donner les centrales nucléaires. On parle même pas du réacteur. J'ai pas de sable, moi. Je sais pas construire une centrale sans sable. Et le sable du désert ne marche pas, c'est facile, mais c'est pas le bon sable, il faut du sable de rivière, il y en a plus assez. On va être tendu sur tous les côtés. Il y a des solutions qu'on nous propose, bah, des small modular reactors. Ok, comme ça on consomme beaucoup plus vite un carburant qu'on n'a déjà presque plus, parce qu'à la fin du siècle, il n'y a plus d'uranium qui convienne pour les small modular reactors. Donc vous arrivez à la fin du siècle. Non, si, j'aurais moi qui fournis. Non, pour le nucléaire, je comprends. Non, mais en fait, le problème, c'est voilà, il faut donc trouver une autre technologie. On travaille dessus, Gen 4, et là, on utilisera n'importe quoi, ça marche, qui est radioactif et ça va marcher peut-être, mais c'est pas encore prêt. Il y a des briques technologiques pas prêtes. On ne sait pas si on va y arriver. Donc à la fin, on peut arriver dans un scénar où on a mis tout le paquet pour faire que ça marche. On arrive à la fin du siècle, on est 12 milliards, et merde, ça ne marche pas.
Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu évoques, c'est à peu près ce que Nicolas évoque, c'est-à-dire des toutes petites briques de l'ensemble qui nous font défaut. Le sable, la pollinisation, et on n'est pas à l'abri, finalement, d'un effondrement énorme à cause d'une petite brique qui manque.
Bah, je dirais que souvent, ça commence comme ça. Je pense que l'effondrement qu'on va vivre, qui est à mon avis inévitable, ça va pas être un truc rapide, genre comme on voit dans les films de Roland Emmerich, voilà, tout d'un coup tout explose et puis c'est la glaciation en 30 secondes. Ça va pas se passer comme ça. Ça va être un effondrement lent dans un système climatique en réchauffement rapide. C'est déjà ce qui est en train de se produire. Et c'est ce qu'un auteur suédois qui s'appelle, ça y est, j'avais son nom, pas peu importe, qui est en fait un des initiateurs de la permaculture en Australie, non pas suédois, il est australien, appelle la Brumtech. Donc Donc ce Totora imagine 4 scénarios possibles. Donc effondrement rapide dans un système climatique en réchauffement rapide, effondrement lent dans un système climatique lent, résilience, on réussit à survivre, ou intendance de la Terre, c'est-à-dire on gère d'une façon totalitaire le peu de ressources qui restent. C'est ce qui peut arriver aussi, parce que ça peut mener, cet effondrement lent peut mener à une dictature écologique totalitaire où on va imposer des quotas à chacun d'eau, d'air, d'énergie, d'émissions carbone, etc. Il y a eu pas mal de romans et de nouvelles là-dessus déjà. Moi, je pense qu'on là, on va vers un effondrement lent dans le système en réchauffement rapide. Donc, on va être obligé de faire des adaptations en catastrophe qui peuvent réussir. Je pense que la réaction au Covid, par exemple, a globalement réussi. Il n'y a pas eu trop de morts quand même, il n'y a pas eu trop d'infections, la société ne s'est pas écroulée. Bon, après, on était pour ou contre le vaccin, c'est un autre débat. Mais, donc, ils peuvent réussir ou pas. Et ça va être, par exemple, j'ai vu récemment un reportage, là, un JT, quoi, où une personne, victime de catastrophe de sa maison, se plaignait que les assurances avaient doublé leur cotisation pour rembourser un quart de ce qu'elles remboursaient avant. Et ça, pour moi, ça, c'est un signe de l'effondrement. Quand les assurances ne pourront plus rembourser les catastrophes et que les gens auront tout perdu et seront obligés de se démerder par eux-mêmes, là, on commence à entrer dans le monde d'après, à mon avis.
Et là, la conférence d'après démarre, effectivement. Merci pour votre attention. Donc, vous retrouvez tous les auteurs et notre autrice en dédicace à la Bulle des Livres. Bon, j'espère qu'on ne vous a pas tous trop déprimés. Vous n'aviez pas de scénario non plus complètement invraisemblable. Merci.
ActuSF. Les podcasts.